Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I take you for a ride on the devil's ship. I take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin.
Réal, merci d'être venu.
Plaisir.
Je m'excuse pour ça. C'est toute une...
Pas problème. J'aime c'est ça. Tout, un petit soundcheck avant, on est prêt.
C'est une production avec lui.
Oui, il fait tout.
Alors, dis-moi, j'ai des questions pour toi okay. À propos des pranks, mais on va revenir.
Parfait.
Parce que nous, on fait des pranks.
Ah oui, hein?
Mais j'aime tes pranks.
Oui.
Puis ben, j'aime que tu transformes des pranks, puis tu parles de ça, quand ça fait partie de ta production en scène.
Mm-hmm.
Parce que ça fait des années où je pensais, je peux-tu mettre les choses qu'on fait dehors, le transformer dans quelque chose où je peux utiliser ça sur la scène?
Ouais, c'est pas facile.
C'est là. Pas facile.
Non, c'est sûr. Moi, je le fais avec M. Latreille, qui est quelque chose avec quoi je suis habitué, je suis vraiment habitué. Mais malgré que mon deuxième show solo, je faisais quand même plus de téléphones sur scène. Il y avait un pattern que je faisais. J'appelais, je demandais à une personne dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a emprunté quelque chose depuis longtemps puis qui ne vous l'a pas remis encore? Ah oui, mon voisin m'a emprunté ma tondeuse puis il ne me l'a pas remis, ça fait 6 mois, mettons. Fait que là, j'appelais le voisin pour essayer d'organiser la rencontre entre les deux pour qu'il puisse aller remettre sa tondeuse. Puis des fois, ça créait des moments vraiment le fun.
Puis, est-ce que c'était quelque chose que tu te souviens des New York? Ça sortait beaucoup dans les années 80, les prank calls puis tout ça. C'est-tu quelque chose qui t'a influencé?
Je n'étais même pas au courant. J'ai découvert Tom Green,
ouais.
Qui est comme un des premiers ou presque, après ce que je faisais, moi.
Oh, alors quand t'as vu ça, t'es comme, OK, il y a d'autres mondes qui sont comme moi.
Ouais, exact. J'avais le goût de lâcher le métier ce jour-là.
Non, du coup, c'est pas... Mais c'est-tu quelque chose qui te motive quand tu vois qu'il y a d'autres gens comme c'est... Parce que des fois, comme moi, je faisais beaucoup de prank calls quand j'étais petit.
Ouais.
Puis moi, mes amis, on riait avec ça. Mais il y avait d'autres mondes qui disaient, qui fait ça? C'est pas normal, c'est pas drôle, arrête. Mais quand j'ai su qu'il y a plein de monde qui font ça ici aux États-Unis, j'étais comme, OK, j'ai pas... C'est drôle.
Oui, ben oui. C'est le fun. Puis ce qui est le fun de ça aussi, c'est qu'il faut que tu fasses ça avec une équipe qui sont comme tes amis.
Ouais, ouais.
Tu peux pas organiser ça avec une vraie équipe télé. On dirait qu'il faut que ça soit un peu tout croche.
Ouais.
Pour avoir du plaisir. Il faut pas que le char soit un beau char. Il faut que ça soit vraiment, faut que l'équipement fasse dur un peu.
Puis je pense, comme tu as dit, avec tes amis, tu étais plus confortable avec les gens. Moi, je travaille comme en professionnel, tu sais, professionnellement avec plein de monde.
Ouais.
Puis on s'entend bien, puis ça marche. Mais pour les choses vraiment créatives, down and dirty, j'ai besoin de lui ou Mike Ward, des gens que je suis vraiment, vraiment
exact.
Proche avec, puis on se comprend.
On veut pas sentir une pression aussi. Tu sais, dès que ça devient gros, t'as un peu plus de pression, donc t'es moins détendu.
Ouais, si ça sent que c'est une grande production... Je pense que ça perd un peu de sa charme.
Exact. Comme ici, tes micros sont déjà un peu trop beaux pour moi.
Tu sais quoi? tu dis ça comme une joke, mais j'ai déjà pensé à ça. Je dis, ben, on a les bons micros, mais on n'a pas les écouteurs. On fait ça moitié fait ici.
C'est vrai.
Ouais.
On prendrait quasiment une canne avec un petit fil là, pour qu'on puisse s'entendre avec ça.
Mais sur la radio, ils n'utilisent pas ça. Ils utilisent les... je pense c'est quoi?
Les ondes FM.
T'étais à Zone FM, toi?
Non, je fais des blagues.
T'étais où?
J'étais au 91.9 Sport.
T'aimes ça parler, discuter du sport?
Ouais.
Quel sport, Réal?
Je te dirais hockey, tennis, soccer.
C'est à peu près soccer?
C'est à peu près ces trois-là, ouais.
Soccer, je sais pas pourquoi t'étais pas là hier. Moi, toi, puis Jean-Thomas Jobin. On a parlé pendant une demi-heure sur le podcast de soccer.
Okay.
Puis il était comme, tu penses que le monde va être fâché? Je dis non, c'est ça le podcast.
C'est un joueur de tennis en plus.
Lui, ouais. Puis il y a plein d'histoires. Puis d'hockey, balle.
Oui.
Ouais. Alors toi, tu joues-tu des sports aussi ou c'est juste fan?
Hockey et tennis.
Tu joues-tu avec Jean-Thomas des fois?
Ça m'est jamais arrivé de jouer contre Jean-Thomas, mais souvent on se texte pour jouer ensemble, ça marche pas encore. À un moment donné, ça
va. Tu penses qu'il a peur?
Je pense qu'il a peur, oui.
Ça se peut.
C'est Alexandre Barrette qui est comme notre mentor, parce que lui, il était classé comme 6e au Québec à un moment donné quand il était jeune.
Ah oh ouais?
Oui. Puis moi, j'ai joué contre Alex, pour le fun, juste pour le fun, pas de points.
T'as-tu battu?
Non, parce qu'il n'y a pas de points.
Okay.
Mais Alex me dit, t'es peut-être un petit peu meilleur que Jean-Thomas.
C'est ça qu'il a dit?
Ouais, mais je pense qu'il dit la même chose à Jean-Thomas de moi.
ouais, puis les deux, vous êtes poches. Ouais. Mais on ne sait jamais, peut-être c'est lui qui n'est pas bon. Puis toi et Jean-Thomas sont excellents.
Ça se peut.
Puis tu joues-tu en groupe de hockey?
Hockey, je joue, je te dirais, à peu près une fois ou deux par semaine l'hiver.
Oh, nice! Glace.
Ouais. Glace.
Oh, very nice. Nous, on joue balle encore. Pendant l'hiver,
c'est fun,
pendant
balle.
L'été, ouais.
Ouais.
Bruce Hills, il joue aussi.
Okay.
Ouais, lui, c'est un méchant joueur de hockey. Il n'est pas trop bon, okay. Mais vraiment agressif.
Ben, il y a un nom qui fait peur aussi. Bruce Hill, je me méfierais de lui.
Hors du jeu, il est le gars le plus gentil, calme. Quand tu joues, tu ne veux pas le crosser.
Ouais, c'est ça.
Ah, lui, il est quelque chose d'autre.
Bruce Hill.
Ouais, ouais. Puis toi, avec le soccer, habituellement, ça, j'ai du trouble ici à trouver des gens qui aiment le soccer. Jean-Thomas, il me niaise un peu à cause de ça.
Okay.
C'est toute ta vie que tu aimes ça, le soccer?
Ben moi, j'ai joué beaucoup au soccer quand j'étais jeune. J'ai gagné.
Dans des équipes?
Oui, dans des équipes, même organisées. J'ai gagné le championnat du Québec quand j'étais Bantam 2B.
Oh, shit, OK.
Ouais, j'ai une médaille chez nous.
Alors, depuis ce temps-là, as-tu une équipe que tu suis ou…
Pas tant que ça. J'aime les grosses compétitions. Comme là, l'Euro, j'ai beaucoup suivi l'Euro.
Frippé sur ça, ouais.
Je suis pas capable de me brancher puis d'avoir une équipe préférée. Je prends souvent pour les Italiens, puis cette année, ils ont gagné.
Ouais.
Parce que premièrement, il y a beaucoup d'Italiens à Montréal, puis je trouve ça beau de les voir fêter comme ça.
Oh, c'est
ça
pourquoi,
me fait plaisir.
C'est le podcast parfait. Jean-Thomas était fâché à cause des Italiens parce qu'il faisait trop de bruit. Ouais. Et toi, t'es heureux. Tu vois le comportement de toute personne. Oh, moi, j'aime ça. Je trouve que le monde est heureux. C'est bon pour moi. Lui, comme non, je ne peux pas. Ils font trop de bruit, les Italiens.
Mais en même temps, je reste vraiment loin des Italiens. Je reste dans le nord. Moi, je reste dans les Laurentides. Je suis comme à 45 minutes de char d'ici. Là.
Oh, tu peux pas les voir.
Moi, ils peuvent bien tout casser ce qu'ils veulent. Ça me dérange pas. Même.
Ils cassent pas. Non, ils ont juste du fun.
Exact. Tandis que les Montréalais, quand Canadiens gagnent, on casse tout. Ça, c'est pas normal.
Ça, c'est pas normal, mais c'est l'histoire. On fait ça pour les concerts qui marchent pas pour nous, les matchs de hockey. Si on s'en fout, on va détruire tout. C'est juste une excuse. Mais c'est pour ça qu'on a toujours de la construction, parce que quelqu'un a détruit quelque chose.
C'est juste le hockey que ça fait ça. Il n'y a personne qui sent, après le festival Juste pour rire, vient d'avoir un bon numéro de quelqu'un, puis il a le goût de tout casser après.
Ça veut faire un bon sketch. ça fait un bon sketch pour essayer de rationaliser ça.
Ouais.
Puis, alors, OK, t'es comme moi, t'es comme vraiment amateur de sport, t'aimes ça. L'humour, ça a commencé quand pour toi?
Eh mon Dieu, c'est un peu par accident, j'avoue. Mon père faisait le même métier que moi. Mon père, c'était Réal Bélan Tigus, qui était un comique au Québec pendant 40 ans à peu près. Puis,
alors, il était un des premiers.
Ah oui, absolument.
Ouais. Oh, ça, c'est cool.
Est-ce que tu connais Olivier Guimond?
Non.
OK, Olivier Guimond, c'est un des plus grands comiques au Québec. Mais son père était là avant Olivier, mais mon père travaillait avec son père beaucoup aussi. Donc,
oh, moi, ça, c'est l'histoire, élevé, ça,
j'ai
c'est
grandi,
cool.
J'ai grandi en voyant mon père. Fait que j'ai comme si ton père est plombier, tu deviens plombier. Moi, c'est un peu ça. Là. Je voyais mon père faire rire, je suis devenu un humoriste.
Puis, est-ce que tu faisais des choses des fois pour lui montrer comme « Hey, j'écris ce joke-là, check… » Non?
J'étais hyper timide. Il n'y en était même pas question. Puis, quand mon père est décédé, j'avais 12 ans. Là.
Okay.
Et je pense que si mon père n'était pas décédé si jeune, je pense que je n'aurais pas fait ce métier-là. J'aurais été trop intimidé.
Par lui, puis
le métier aussi. C'est un métier, il m'intimide encore, ce métier-là. Je suis pas bien dans ce milieu-là, mais je suis quand même là avec
de
toi.
De quelle
avec
façon,
beaux,
de quelle manière,
micros.
Tu veux dire, t'es pas bien comme… T'as peur de ne pas faire le monde rire ou…
Non, pas du tout. J'aime pas la compétition.
Mais est-ce que toi, tu trouves la compétition? Moi, j'évite la compétition. Parce que moi, je suis heureux pour tout. Tu sais, quelque
moi
chose
aussi.
Arrive. Ça n'a rien à faire avec moi. Si toi, tu as un bon numéro, ça ne veut pas dire que le mien ne peut pas être bon. Alors,
Au contraire, moi, je pense que c'est important que les autres soient bons.
Et c'est ça que je dis.
Si on s'ouvre un restaurant de pizza ensemble,
ouais.
Si tous les autres restaurants de pizza ne sont pas bons, il n'y a pas de clients qui vont venir chez nous. Ils vont dire, la pizza, c'est pas bon.
La pizza, puis nous, on n'a pas vraiment quelque chose qui va nous motiver pour faire la meilleure pizza. Non, tu dois…
Exact.
Tout le monde autour de toi, s'ils sont bons, ton clique, on va dire les humoristes québécois,
ben,
tu n'as pas le choix. Tu dois devenir meilleur.
Absolument. Puis quand tu es surtout dans un gala, c'est là que tu le vois. Je voyais des humoristes qui disaient, j'espère que ce ne sera pas bon le numéro avant moi. Au contraire, il faut que le numéro avant toi soit bon pour que toi, tu puisses prendre cette énergie-là puis l'amener encore plus haut.
Ça, c'est quelque chose que j'ai vu avec les Américains, puis je comprenais pas. Parce que, puis lui, il vient à presque toutes les shows. Il a vu Mike une cinquantaine, centaine de fois. Moi, il me voit. Alors, il voit français, anglais, il voit plein d'humoristes, lui.
Ouais.
Puis il s'est rendu compte, les gens qui disent ça backstage, puis on avait une discussion à propos de ça, quand ils veulent que la personne ne fasse pas bien ou la personne avant fasse, eux non plus, ils ne font pas bien. Parce que
c'est sûr.
C'est une vague. Si toi, tu vas, puis tu es de la merde, tu ne veux pas être là, c'est pas des bons jokes, tu n'es pas heureux, puis eux, ils rient pas. Ben, si moi je sors, je peux faire le meilleur numéro, le public n'est pas prêt.
Exact.
Ils sont encore négatifs. Tu as besoin que tout le monde est heureux, ils font bien, puis c'est une vague.
Oui.
C'est comme le surfing.
Le public a besoin d'être en confiance.
Ouais.
Puis si le gars avant toi n'est pas bon, le public est un peu déstabilisé, puis il n'est pas bien. Tu sais, il ne passe pas une belle soirée.
Tu sais, moi plutôt, on a joué dans des équipes. Tu penses que ça joue un rôle, ça? Parce que moi, comme en hockey ou au basket, ben j'ai besoin que tout le monde autour de moi fasse bien parce que c'est comme ça qu'on gagne.
C'est sûr.
Il y a plein de personnes que je m'aperçois qui n'ont jamais fait de sport d'équipe, puis ils ont cette mentalité-là. C'est comme si c'était une compétition, les humoristes, que ce n'est pas. C'est de l'art, c'est pas de compétition.
Exact. C'est pas parce qu'on est un, c'est pas parce qu'on n'est pas en même temps sur scène qu'on n'est pas une équipe. On donne quand même un show ensemble, puis à la fin, c'est le résultat qui compte.
Ouais. Moi je suis, parce que je fais beaucoup de podcasts, tu viens quand Joe Rogan a signé son deal de 100 millions de dollars?
Ouais.
Ben, j'avais vu des humoristes qui étaient fâchés. Pourquoi lui, c'est beaucoup d'argent? Pourquoi? Pour moi, je l'ai vu ça comme non, ça c'est très bon parce que pour tous les podcasteurs, Joe Rogan nous a fait une faveur puis il ne savait même pas. Il vient de setter un price point. Moi, plutôt, peut-être on ne peut pas chercher 100 millions de dollars. Mais maintenant, on peut chercher de l'argent.
Exact.
Parce qu'il y a une value pour les podcasts.
Absolument.
Alors, s'il fait du bien, ça va tomber à nous aussi. C'est juste à le voir comme ça.
C'est sûr.
Mais j'aime la façon que tu vois les choses parce que c'est vraiment comme ça. Il n'y a pas de compétition parce que c'est tout de l'art.
Oui, puis à un moment donné, moi, ça fait 32 ans que je fais ça. Je suis bien conscient que je ne suis plus la saveur du mois. T'sais. Puis maintenant, c'est à moi à aider les autres, à les rendre meilleurs, à écrire pour eux, à faire des mises en scène pour eux, à être là pour justement leur donner ce que moi, j'ai reçu des plus vieux aussi. T'sais.
Puis toi, tu en as vécu beaucoup parce que, comme tu as dit, si ton père était un des premiers, l'histoire, c'est dans toi. L'histoire de l'humour de Québec va dans toi, dans ta ADN. Ouais. Alors, pour toi, tu as beaucoup de choses que tu peux partager. Pas juste l'affaire business, l'aspect business que toi, tu as appris, mais les choses que tu as vues de ton père, comment les choses ont changé. Puis ça, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre nous-mêmes. On a besoin de quelqu'un qui a vu. Le changement.
Oui.
C'est juste toi qui peux donner ces infos-là.
Oui, c'est important. C'est très important. Puis de passer le flambeau aux plus jeunes aussi, c'est important. C'est important d'écouver les jeunes parce que moi, quand j'étais plus jeune en humour, il y en a qui m'ont aidé, il y en a qui m'ont couvé, il y en a qui m'ont donné des chances. Fait que ça, c'est important. Ça fait partie d'un travail d'équipe, tu sais.
Puis est-ce que toi, tu penses que tu es dans la position maintenant, meilleur setup pour toi pour que tu puisses aider un peu?
Vraiment.
Ouais, hein?
Oh, oui, vraiment, j'aime ça aussi. J'adore ça. Je trouve ça plus le fun de faire une mise en scène que faire moi-même un show.
Comment ça? Ça...
Je sais pas. J'ai toujours abordé ce métier-là comme quelque chose de très simple.
Ouais.
Tu sais, c'est un métier comme un autre. On est payé, puis on est très chanceux de faire ce qu'on fait puis d'être payé pour ça. Alors,
Il te paye, toi?
Moi, je suis payé. Puis je trouve ça important de communiquer le plaisir aux autres parce que je trouve que la nouvelle génération, les plus jeunes, ont un peu moins de plaisir que nous autres, on en avait il y a 15-20 ans.
Tu penses que c'est à cause que les choses se sont compliquées?
Un petit peu business,
plus
qu'avant.
Ouais, puis même la société, je vois, parce que tu as utilisé ce mot-là que tu trouves simple, je pense que c'est la simplicité qui a peut-être été perdue. Parce que même avant, social media, tout ça, Facebook… C'était plus simple.
Ouais.
Maintenant, c'est comme si tu travailles à chaque 2 minutes. Oh, j'ai besoin de mettre une vidéo, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça. Puis ça enlève un peu cette mise en scène où on était tout relax à un moment. Puis on voulait juste tester des choses.
Il y a quelque chose dans le spectacle, entre guillemets, ou appelle ça comme tu veux, du stand-up ou de l'humour, où il y a un décorum. Tu sais, il y a un éclairage, il y a une scène, on est surélevé, il y a des rideaux en arrière où il y a un décor. Quand tu es chez vous, sur un mur blanc, puis que t'es moyennement bon, c'est pas obligé de mettre ça sur Internet. T'es pas obligé de faire quelque chose. Si t'as pas d'idée, si t'as pas quelque chose de drôle à dire, si t'as pas quelque chose qui fait, je dirais même pas drôle, je dirais qui fait avancer, qui fait évoluer, t'es pas obligé. T'es pas obligé d'en faire 138 dans l'année. Tu peux en faire juste 12, mais 12 très bons.
Ouais, puis je vais faire que tu tombes sur quelque chose d'intéressant parce que je pense que je vois mes amis, c'est comme s'ils sentent qu'il doit sortir quelque chose.
C'est ça.
Mais ça, qui t'a dit que tu dois sortir quelque chose?
Effectivement. Tu sais, il y a des. Puis ça, c'est l'art en général. Tu sais, il y a des peintres qui vont peindre 300 toiles dans une année. Il n'y en a pas une qui va se vendre cher dans 100 ans. Mais il y en a qui ont peint 10 toiles dans l'année, puis les 10 sont incroyables. Tu sais. Ouais. Faut penser à ça. On peut pas être génial à toutes les secondes. Tu sais, c'est impossible.
Puis est-ce que toi, tu avais vu au début, quand tu commençais, puis tu as dit, OK, moi, je dois devenir humoriste, j'aime ça. T'avais-tu pensé un peu à une trajectoire? Comme, t'avais-tu des étapes? Je dois faire ça. Peut-être je dois écrire, peut-être un film. Ou c'était comme, écoute, je rentre dans ça, puis je nage, je vais voir qu'est-ce qui marche.
C'était vraiment à l'instinct.
Ouais, hein?
Il n'y avait pas de plan. Premièrement, moi, j'ai étudié en théâtre. Fait que je suis comme un imposteur de l'autre côté.
T'es la troisième personne de me dire ça.
Ah ouais, hein?
Vous n'êtes pas des imposteurs. C'est juste...
Oui, je comprends, mais sauf que souvent, on dit que les comédiens de théâtre qui essaient de devenir humoristes sont des imposteurs.
Okay.
Moi, j'ai fait l'inverse. Parce que je voulais être comédien au départ. C'est ça qui m'intéressait, parce que je suis un gars d'équipe. Moi, j'aime jouer avec les autres.
Puis toute la production, il y a plein de personnes qui travaillent.
Ouais. Puis mon père était en duo aussi. Donc, j'ai été élevé, moi, c'était Tigus et Timus, dans le temps, le duo. Fait que j'ai été élevé à voir deux personnes qui se parlent. Fait que moi, tout seul en stand-up, c'était pas naturel. Au début, moi, j'ai fait ma carrière, mes huit premières années de carrière, avec un partenaire qui s'appelait Stéphane Lefebvre. J'étais en duo aussi.
Oh, ouais. Puis peut-être ça joue, parce que tu sais, tu m'as dit que tu étais timide un peu. Peut-être c'est pour ça aussi, parce que tu voyais, ben moi, je vais être tout seul. Comment est-ce que je peux te démontrer ça?
T'es en plein ça. C'est difficile de monter sur scène tout seul.
Ouais.
C'est quand t'es timide, en tout cas, c'est probablement la chose la plus... c'est contre ma nature, moi.
Comment est-ce que t'as dépassé ça?
Je pense que mon envie de faire rire était plus forte que ma gêne. C'est ça que j'ai compris.
Ah, intéressant!
Ouais, c'est ce que j'ai compris.
Comme, qu'est-ce qui t'a... La première fois où t'as dit « Non, je vais essayer de faire ça tout seul », c'était quoi la motivation? Parce ça doit être quelque chose de grand quand même. OK, je suis déjà timide. Mon père a fait toutes ces bonnes choses. Je dois au moins émuler la qualité. J'ai un partenaire. Je suis pas tout seul. Ah, oublie ça. Moi, je vais essayer. Ça doit prendre quelque chose.
C'est parce que mon partenaire, Stéphane Lefebvre, avec qui je travaille encore aujourd'hui à l'écriture, il était très malade avant les shows. Il vomissait.
Lui, il était nerveux, plus nerveux que toi. Ouais.
À un moment donné, il était plus capable. Puis il a dit comme moi, je peux plus. Fait que toi, continue, puis je vais écrire avec toi. Fait que j'ai comme été obligé d'aller seul sur scène.
C'est comme, c'est le même partenariat. Vous êtes encore une équipe, mais c'est juste que, écoute, devant la caméra, c'est moi. En arrière, on est ensemble, c'est ça?
Exact. Puis je gagne beaucoup plus cher.
Puis lui, ça vient d'où ça? Parce qu'il a déjà fait ça, vous étiez ensemble sur la scène. C'est où que c'est devenu trop pour lui? C'est comment?
Depuis le jour 1 qu'on travaillait ensemble, il y avait de la difficulté. Il vomissait avant le show. Il était malade sur scène. Puis vers la fin, là, c'était trop pour lui. Là. Il n'était plus capable. Même, on travaillait à Surprise, Surprise. Tu connais Surprise, Surprise?
Non.
C'est une émission qui est à succès un peu partout dans le monde, mais ça a commencé au Québec. Puis moi, j'ai travaillé les deux dernières années de Surprise, Surprise. Ici, j'étais à l'écriture. Puis à un moment donné, on s'est mis à jouer dans les gags de Surprise, Surprise. C'était des pranks, mais à des artistes. C'était ça, le show. Puis Steph... Il était avec moi aussi, puis il était malade aussi là-dedans. Fait que Stéphane, dès qu'il sentait une pression, il n'était pas capable.
Tu connais-tu Martin Vachon?
Ben oui.
Lui, il me disait des pranks hier qu'il faisait. Moi, je pense que si tu n'as pas travaillé avec lui, tu devrais travailler avec lui.
Ah ouais, hein?
Ouais. Même lui, il est obsédé même à Halloween, l'effort qu'il met chez lui. Il engage des comédiens, puis le monde ne sache pas, puis c'est des zombies. Il fait plein de choses. Puis il parlait des pranks qu'a fait un humoriste, le pire corpo. Le gars, il ne savait pas. Il dit, écoute, tu vas faire ma première partie. Puis c'était 10 personnes, c'est ça le corpo, 10 personnes, toutes debout. Une petite affaire, une box, il n'y a pas de micro. C'est le pire show. Puis lui, apparemment, c'était une trooper, le gars qui est allé faire le show. Yeah. Il n'a rien dit. Il dit, OK, ben c'est le job, je vais le faire. Quand je savais que tu venais, je disais, shit, je devais lui demander s'ils se parlent ensemble. Parce que
mais des fois, il fait ma première partie, Martin.
Il y a une bonne fucking cerveau pour des pranks comme ça. Et puis, je pense que pranker les humoristes, je sais pas s'il y a des gars qui prennent ça au sérieux puis ils se fâchent. Moi, je pense que c'est bon de nous niaiser un peu.
Oui, mais sûrement, parce que je me souviens, Rachid Badouri.
OK.
À un moment donné, j'ai fait pendant 5 ans les coulisses, juste pour rire. C'est-à-dire que je faisais des conneries dans les coulisses, là, puis de temps en temps, je faisais des pranks. Puis j'avais pris une mousse de micro comme ça, puis je l'avais mis pendant 3 jours avec un poisson mort. Alors ça, j'ai remis ça sur mon micro, puis j'allais interviewer le monde. Puis c'était incroyable. Oh, l'odeur. Le monde voulait me frapper.
C'est dégueulasse.
Puis Rachid, il s'est approché comme à 5 pieds de moi, puis il a fait comme... Oh! Puis il est parti, puis il m'en a voulu ce soir-là.
Oh, ouais. Fuck, Rachid. Ouais. Ouais, Rachid, on connaît ce...
Le micro qui pue.
Le micro... Puis qu'est-ce... Tu planifies-tu des choses maintenant? Tu penses à faire des pranks? T'as-tu des grands pranks?
Des pranks, non. J'ai comme... tu sais, j'ai 50 ans. J'ai comme ma carte de la FADOC, qui est une carte qui te donne des rabais partout quand t'as 50 ans. Je suis comme trop vieux, on dirait, pour faire des pranks. Mais peut-être que c'est un avantage aussi. Des fois, je pense. Me dis, j'ai l'air moins sournois que quand j'étais jeune. Donc, peut-être que je pourrais commencer à faire des pranks.
Puis, t'es plus smart. T'es plus intelligent. Tu peux penser à des bons trucs. Ouais. Non, moi, j'étais toujours dans ça. J'adore des bons pranks. J'adore parler avec le monde qui aime ça niaiser. Je sais pas pourquoi il y a des humoristes qui le prennent ça trop sérieux. Si tu les niaises, si tu fais des pranks, c'est comme si la joke est envers moi. Je peux pas voir la joke.
C'est vrai que les humoristes sont, en tout cas, de plus en plus, sont un peu précieux.
Sensibles.
Ouais. Ils sont un peu rockstar.
Ouais, un peu trop.
Oui.
On doit se niaiser.
Ben, je pense que oui. C'est pas normal qu'un humoriste, c'est lui qui a le moins le sens de l'humour. Mais j'en fais encore des pranks. Je dis que j'en fais plus, mais j'en fais en show avec Latreille. Je fais encore Monsieur Latreille en show, donc je pogne quelqu'un au téléphone à chaque soir.
Ça arrive-tu des fois où tu appelles la mauvaise personne comme c'est comme, oh, j'aurais pas dû faire ce faux. C'est bizarre.
Oui. Oui, ça arrive, mais ça, c'est rare.
C'était quoi le pire?
Le pire, il y en est arrivé plusieurs, mais il y a un soir où, normalement, je fais jamais ça. C'est que quelqu'un vient me voir et il dit « Je veux demander ma femme en mariage. Veux-tu l'appeler en Monsieur Latreille pour lui demander si elle veut me marier? » Mais normalement, je veux jamais prévoir des choses. Tout le temps, tu sais, je choisis quelqu'un dans la salle sur le moment, mais là, je dis « OK, je vais le faire. » On est en Abitibi, puis je trouve ça drôle. Avec le soir, je fais Monsieur Latreille, puis je parle à la femme, puis le gars, il veut la marier, puis là, je fais la demande en mariage. Puis la femme a répondu non.
Fuck.
Il y a une espèce de malaise dans la salle.
J'imagine.
Ça a pris 10 minutes avant que je puisse relancer mon show parce que c'était triste. Le gars, il était défait.
Oh, ça, c'est.
Ouais.
Ah, écoutez, je m'excuse. Oh, lui, je pense que le con, il savait peut-être que ça peut être un non. C'est pour ça qu'il a dit. Je mets le middleman, fort chance, elle va dire oui, mais ça n'a pas marché.
Non.
Puis, as-tu des choses maintenant que tu as appris après toutes ces années que tu aimerais que les jeunes, les nouveaux humoristes, ils sachent pour ne pas faire les mêmes erreurs? As-tu quelque chose que tu es comme, ah, oh, man, arrête de faire ça? Ou...
Bien, il y a peut-être le aller trop vite, aller trop rapidement. Souvent, on a, puis même encore, ben toi, je sais pas, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait longtemps?
10 ans, ouais.
10 ans. Bon, tu vois... Tu vas essayer d'écrire un numéro, là, tu vas t'installer à ton ordinateur ou avec quelqu'un, si tu l'écris à deux, puis là, tu vas dire comme, aujourd'hui, ça n'a pas avancé, tu sais, on a écrit 3 gags, puis dans ta tête, t'es comme stressé parce que tu veux que ça avance plus vite.
Ouais, ouais.
Mais ça, c'est pas rapide. Tu sais, faut accepter qu'aujourd'hui, on écrit juste 2 bons gags ou 1 bon gag, mais il est killer, tu sais. Puis ça, on dirait qu'on a de la misère à vivre avec ça. On dirait qu'on veut produire trop rapidement, puis on dirait que ça nous démotive. C'est comme si ça nous rendait de mauvaise humeur. Puis être de bonne humeur, pour moi, à l'extérieur de la scène et sur la scène, te rend vraiment meilleur.
Ouais.
Moi, je dis souvent ça. Tu sais, les humoristes, ils vont roder un gag. Ils vont le roder pendant 15 soirs. Il va marcher comme une tonne de briques. Le 16e soir, il ne marche pas bien. Ça va les déstabiliser. Ils vont être de mauvaise humeur. Puis 5-6 minutes qui suivent dans leur show vont être moyens à cause qu'ils sont moins de bonne humeur. Fait qu'il faut être assez fort psychologiquement pour dire « OK, ce gag-là, il a pas marché fort comme je voulais, puis c'est mon killer, pas grave. On tourne la page dans notre tête, puis on continue, puis on reste de bonne humeur. »
Est-ce que tu vois ça beaucoup maintenant?
Beaucoup. Beaucoup, puis souvent, c'est des humoristes qui sont perfectionnistes. C'est important d'être perfectionniste, mais moi, je dis tout le temps, il faut être excellent, mais être parfait, c'est impossible de viser la perfection.
Ouais, quelqu'un me disait ça avant, il me disait... la perfection, c'est l'ennemi du bon. Alors, t'essayes d'être parfait, ça va pas être bon.
Exact.
Parce que ça peut jamais être parfait.
Il y en a un qui est capable d'atteindre la perfection, puis c'est Martin Matt.
Ouais!
C'est une autre catégorie.
Ouais, non, c'est... fuck! T'as raison, parce que je le vois dans moi-même aussi. Des fois, je me frustre parce que je suis comme, ah, qu'est-ce que je dois changer? Je sais que ça peut marcher, mais il y a quelque chose qui me... Puis c'est comme si je le rush.
Exact.
Puis même sur scène, pour moi, ça marche meilleur parce que moi, je dis toujours des histoires, c'est des longues histoires. Quand je suis calme, relax, je ris, puis j'ai mon rythme. Si j'essaie de rusher ça pour arriver au punch, il y a moins d'impact le punch.
C'est sûr. Parce que c'est comme si tu escamotais. C'est comme si tu voulais pas prendre le temps qu'il faut pour te rendre au punch.
Ouais.
Il faut prendre le temps qu'il faut pour se rendre au punch. Sinon, ton punch va en souffrir.
Non, tu as totalement raison. Puis j'aime que tu vois ça comme ça, puis tu te dis... Puis, parce que tu écris beaucoup, tu as tout ça dans ta tête. Tu as l'ADN de l'humoriste, right? Alors, est-ce que tu préfères ça, écrire, que toute autre chose? Parce que tout commence avec ça.
J'adore écrire. J'ai toujours aimé plus écrire que faire le reste. Sauf que depuis à peu près 3-4 ans, j'aime mieux être sur scène. Parce que j'ai trouvé une façon d'être détendu sur scène. Puis pour moi, sur scène, c'est comme...
Les drogues?
C'est comme une... la relaxation, là, tu sais. Méditation, être sur scène. Là. Moi, je me dis, tu sais, c'est pas grave si ça va pas bien. Demain, on refait un autre show? Oui.
Mais avant, tu disais pas ça?
Non. On dirait que j'étais stressé, on dirait que j'étais tendu. Maintenant, c'est comme... On a du plaisir avec le monde. On essaie de les rendre heureux le plus possible. Puis justement... mot par mot, et non, même pas gag par gag, c'est mot par mot, avoir du plaisir.
Oh fuck, ça c'est bon.
C'est quasiment un bouddhiste de l'humour.
Non, mais c'est bon d'être comme ça dans ta vie.
Oui.
D'être calme un peu, puis de prendre toutes les choses, une chose à la fois.
Mais dans la vie, c'est plus difficile.
C'est beaucoup plus difficile, ouais. Mais si tu peux faire ça sur la scène, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux traduire puis l'amener dans ta vie de chaque jour. C'est, toi, avec l'expérience, je pense que t'es plus... à l'aise de faire ça, mais je pense à des amis qui sont nouveaux au stand-up ou 5-6 ans. C'est difficile. C'est difficile parce que même quand on discute backstage, puis je dis juste calme-toi, ça va être fun. Ils sortent, tu vois que si quelque chose ne marche pas parfaitement comme ils veulent, ça change tout le rythme.
C'est parce qu'il faut. C'est un métier que tu peux pas être pressé. Tu sais, ça peut prendre. Moi, ça a pris 12-13 ans avant que je trouve vraiment mon personnage sur scène. Ma façon d'être sur scène, ça a pris des années et des années. Fait que quelqu'un qui ça fait 3 ans, c'est quasiment une joke, tu sais. Un humoriste, c'est un... Moi, je vois ça. Tu sais, comme j'ai étudié en théâtre, les comédiens, ils vont pas aimer ce que je vais dire. Mais être comédien, c'est comme être un infirmier. Puis être un humoriste, c'est comme être un neurochirurgien.
Fucking right, let's go.
OK? OK? Est-ce que c'est la fin? OK. Puis... Fait que, parce que tu peux tout changer, les mots, tu peux changer l'interprétation, t'es le metteur en scène, t'es l'interprète, t'es le writer. En théâtre, tu joues du Molière, tu peux pas appeler Molière le soir puis dire « Hey, Molière, je changerais peut-être ça. »
Ouais, t'sais, ouais, ça marche pas.
Non, fait que les détails dans un numéro d'humour, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus que dans du théâtre. Alors, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pas facile, puis c'est pas en 3 ans que tu vas devenir un bon humoriste. À moins d'une exception. Il y a des gars comme Louis-José Hood, par exemple, qui a percé super rapidement. Ça se peut, mais normalement, ça va prendre 8-9 ans.
Ouais.
T'sais, toi, ça fait 10 ans.
Ouais, 11, mais, je pense pas.
T'sais, je sais pas comment ça s'est passé dans ton cas, mais...
C'était rough.
C'était rough, hein? C'est ça. C'est, avant 8 ans, t'es vraiment extraordinaire. T'sais. Moi, je calcule 8 ans, comme les études de neurochirurgien.
T'as totalement raison. Puis je dis ça au monde aussi. Écoute, ça va prendre une dizaine d'années. Tu peux pas l'éviter. C'est rare qu'il y ait une déviance de ça. Puis c'est plus vite. Puis, dans tout ce temps-là, tu vas apprendre.
Oui.
Ça va tout... Moi, je me vois maintenant sur la scène, puis qu'est-ce que je faisais au début ou 3 ans. Puis je vois la différence. Puis j'avais besoin de ça. C'est impossible. Sinon,
exact.
T'es pas assez bon. Puis c'est difficile d'être toi-même. Maintenant, moi, j'ai ma voix, c'est ma voix.
Oui.
Avant, c'était comme, est-ce qu'il veut-tu entendre ça? Tu n'es pas sûr.
Oui, tu sais, un writer va t'écrire un gag, même moi, si je ne te connais pas, là, je suis sûr que je peux t'écrire 10 gags sur une feuille, Puis tu diras pas, ah non, moi je dis pas ça. Tu vas les traduire en, dans ta langue à toi, tu sais. Ouais, tu vas les faire comme toi, tu as le goût de les faire, tu sais. Même si c'est mes gags à moi, tu vas trouver une façon de les faire à ta façon, tu sais.
Ouais, ça devait. Puis toi, OK, je sais que tu as dit, t'avais, comme moi, tu n'avais pas vraiment une comme trajectoire, tu as rentré dans ça, puis tu OK, on va voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, Réal d'aujourd'hui, est-ce que tu vois, comme les prochaines 5 années, as-tu un plan des projets que tu veux compléter, quelque chose que tu veux faire?
Non.
Non, hein?
Je commence à me dire, par contre, que je ne vivrai pas assez vieux pour tout faire les projets que j'ai le goût de faire. Mais pour le reste, j'ai pas de non, je veux continuer à faire des shows. Là, je suis en train d'écrire un show qui rend hommage à l'humour physique, parce que j'aime beaucoup l'humour physique. J'en ai fait beaucoup, puis je veux faire ça. Fait que c'est un show que je vais faire en duo, qui va être un moitié-moitié entre théâtre et comédie.
OK.
Fait que ça, c'est le fun. Je vais comme prendre un congé de stand-up pour faire ce show-là. T'sais.
Puis ça va être une grande tournée?
Ouais. Je vais deux ans de tournée avec ça.
Puis ça commence quand? T'as-tu une...
On va commencer en rodage l'été prochain.
OK. Tu vas revenir au vrai studio pour qu'on fasse un bon podcast.
Ouais.
J'aimerais que tu fasses de la promo pour ça. Absolument. Puis on va en discuter.
Avec, c'est Didier Lucien, que
Didier
tu connais
Lucien.
Peut-être?
Non.
Il est vraiment
mais je vais
comique.
Juste après
tu checkeras, il est vraiment comique.
Oh, fuck, ça, c'est bon. Ouais. Ben, écoute, bonne chance, tu vas revenir.
Oui.
Parce que moi, mes podcasts, j'aime ça long, mais comme tu sais ici, ils ont des limites parce qu'ils ont un invité après un invité après un invité. Mais Réal, je veux vraiment que tu reviennes à mon studio, le vrai studio, pour faire un grand podcast. Je veux te remercier d'être venu.
Un plaisir, merci à toi. Merci vraiment beaucoup. Le fun.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.